Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture.
Il y a deux Salvador Dali. Celui que tout le monde connaît, le génie autoproclamé de Cadaqués, et avant lui, prénommé comme lui Salvador, son frère, mort avant d'avoir 2 ans, 9 mois avant sa naissance. J'ai vécu toute mon enfance avec l'idée que je portais dans mon âme son cadavre agrippé, disait Dali. On sera tenté de rapprocher ce point de sa biographie de ce que l'on entendra dans l'émission qui va suivre, le 6e volet de Clé pour un théâtre-musée, une série produite par Daniel Lecomte, peu après l'ouverture du musée Dali de Figueras. Une émission dans laquelle les images doubles de Dali, les tableaux aux images multiples et cachées, étaient interrogées à travers les interventions de la psychanalyste Claude Tiss, du psychiatre Henri Hay et du peintre Liuba. Y intervenait également le collaborateur de Dali et protecteur de son œuvre, Robert Descharnes. Nuit magnétique, clé pour un théâtre-musée, 6e des 10 épisodes, La blessure infinie, première diffusion le 13 novembre 1978 sur France Culture.
L'ancien théâtre de Figueras, où Salvador Dali a installé son musée, contient à côté d'un amoncellement d'objets cultuels et culturels, un certain nombre de dessins, ceux du début de sa carrière sont particulièrement remarquables, beaucoup de gravures et des tableaux allant de ses premiers essais post-impressionnistes à des réalisations de type hyper-réaliste. Mais on regrette des manques importants.
Vous n'avez aucun tableau paranoïa critique actuellement au musée.
Je crois que non. Enfin, ils sont tous d'après la parole,
oui.
Mais des doubles images,
il y en a pas.
Un seul, que c'est celui que vous m'avez dit qui a le plus grand succès de tous, que c'est le Lincoln.
Oui, il y a celui-là.
Qu'il y a, que ces gars-là, nus, devant la mer Méditerranée, contemplant la mer Méditerranée, et à 15 mètres, il devient le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Maintenant, nous venons d'oublier la plus grande, que c'est un anamorphe solide, paranoïaque, image double, c'est le visage de Mae West.
C'est ça. Mais là, c'est une réalisation, enfin.
Mais complètement image double au maximum, puisque vie d'en bas, c'est une chambre, et posée à un endroit précis, ça devient le portrait de Mae West.
Salvador Dali fait allusion au salon en forme de visage, où des rideaux figurent les cheveux, deux paysages encadrés les yeux, une cheminée à double foyer le nez, et un canapé rouge, la bouche de Mae West. La rareté des images doubles au musée est d'autant plus regrettable que Salvador Dali en a peint tout au long de sa longue carrière. Parmi les dernières, la plus connue est le torero hallucinogène, où l'œil du spectateur peut voir soit le buste d'un torero en habit de lumière, soit des alignements de Vénus de Milo au centre d'une arène. Quelques années plus tôt, Dali avait composé un tableau aussi compliqué, la pêche au thon, dont nous parle le peintre yougoslave Liuba.
Et si on trouve un poisson, on trouve 1000 poissons après. Mais c'est très difficile de trouver le poisson. Et dans le tableau Apothéose de dollars aussi, il y a 1000 choses cachées, il y a une énigme dedans, il faut le chercher. Et ce n'est pas possible de trouver dans un seul coup. C'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer, à mon avis, dans le piège de Dali, chercher les yeux ou un détail des êtres humains. Et après, on arrive à déchiffrer le tableau.
Mmh. Et ça vous paraît une démarche intéressante, vous?
Ah oui, surtout, je crois, sur le plan de la mystère, disons, optique, si j'ose utiliser cette combinaison, c'est très intéressant pour la future de la peinture, parce que c'est tout à fait nouveau. dans un certain sens. Bien sûr que Escher, il a commencé ça aussi à l'époque.
Oui, et puis avant même, il y a les maniéristes qui ont beaucoup utilisé ça, les formes anthropomorphiques de Rocher, tout ça. Ça a déjà été utilisé, ça.
Oui. Mais Dalí l'a développé ça dans un bon sens.
Donc, la démarche de Salvador Dalí, consistant à mettre des images doubles, triples et même sextuples. Il y a un tableau où il y a 6 images comme ça, mélangées. Ça vous paraît être quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, c'est la peinture Cosamantale?
Oui. Je me rappelle que je vis beaucoup de, si vous voulez, de combinaisons qu'il a fait. Mais dans le dernier tableau, j'ai remarqué que les pièges sont beaucoup plus compliqués. Surtout, dans le, par exemple, dans le tableau de Grande Bataille de Tétouan. Ce tableau, c'est les 3 mètres sur 4. C'est un grand tableau. Et alors là, j'étais très frappé par cette nuage de Tétouan qui marche dans une bataille, dans le désert. Il y a aussi un reflet dans le ciel, toute cette cavalerie. Mais dans un moment, je trouve un 0 et je trouve numéro 1. Mais c'était dans une position très réelle, c'est-à-dire la composition de tous les personnages, ce sont les chiffres, mais véritables chiffres. Même le chevauché qui est dans le désert, tout était composé par les chiffres. C'est-à-dire, ça se mêle tout le temps. Vous trouvez numéro 8, par exemple, et tout à coup, ce numéro 8 disparaît, et puis vous voyez un personnage.
De même, dans un tableau de 1940, un marché aux esclaves devant des ruines se transforme, selon la façon de regarder, en un buste de Voltaire. 2 ans plus tôt, Dalí avait peint l'énigme sans fin en travaillant 6 images superposées. Un philosophe allongé, un lévrier, le grand cyclope crétin, une mandoline, un compotier avec figues sur la table, enfin, une femme de dos recousant des voiles. Le premier de tous ces tableaux composites fut en 1929 l'homme invisible que, d'ailleurs, Dalí a laissé inachevé. Robert Descharnes, éditeur de Dalí.
Je crois que d'abord, lui essaye de pratiquer un jeu imaginatif qu'il a organisé au début de... Peut-être même qu'il a commencé à organiser avec Lorca. Je crois, parce que avec Lorca, il y a eu toute une série d'expériences de ces toiles que eux appelaient des petites cendres ou encore des forêts d'appareils, où justement il y avait des éléments très troublants qui ont préparé absolument la période surréaliste de Dalí. Alors les petites cendres, c'était en général, si vous voulez, il commençait déjà à mêler des éléments de mesure, géométriques, mathématiques, avec des éléments totalement opposés qui venaient des petites structures, qui pouvaient aussi bien venir d'une plage de Cadaqués ou du système sanguin. Les premiers phosphènes, les premières représentations d'images de phosphènes, etc., sont présentes dans ces peintures faites avec Lorca de la fin de 26 au milieu de l'année 27. C'est en 26 et 27. Et en 28, c'est l'année de transition. Et n'oublions pas que c'est en 1929 où commence la période surréaliste de Dalí.
Mais c'est 2 ans plus tard qu'il essaiera vraiment de mettre au point les images doubles auxquelles les surréalistes prirent un intérêt passionné. Nous avons demandé à Claude Tisse, auteur d'un essai sur la notion de double, de nous dire à quoi correspondait la recherche de Dalí.
Qu'est-ce que c'est que le double, hein? C'est évidemment une formation psychique, disons, hein, qui a ses sources profondes au niveau des mois très archaïques. On peut déjà situer ça comme ça. Et qui se situe vraiment par rapport à cette peur, hein, que nous avons d'une destruction de nous-mêmes. On voit à quel point ça concerne l'artiste, qui lui veut toujours recréer quelque chose. Hein. Création qui sort de lui et qui finalement est quelque chose qui se dédouble par rapport à lui dans une ligne où il met en jeu quelque chose de l'idéal. Et ça met en jeu ce qu'on appelle classiquement le narcissisme. Hein. Le narcissisme, bah, reprenons l'histoire de Narcisse, on va comprendre assez rapidement de quoi il s'agit. Narcisse se regarde dans la source et aime son image. C'est-à-dire que dans ce dédoublement de lui-même, hein, qu'est-ce qu'il aime? C'est cet autre qu'il idéalise et qu'il espère bien conserver toujours pour ne jamais le perdre.
Extrait de La Métamorphose de Narcisse, poème paranoïaque de Salvador Dalí.
Quand l'anatomie claire et divine de Narcisse se penche sur le miroir obscur du lac, quand son torse blanc plié en avant se fige glacé dans la courbe argentée et hypnotique de son désir, quand le temps passe sur l'horloge des fleurs du sable de sa propre chair, Narcisse s'anéantit dans le vertige cosmique au plus profond duquel chante la sirène froide et dionysiaque de sa propre image.
Toute création de quelque chose qui est de l'ordre du double, c'est toujours dans l'idée de se préserver de la destruction. Mais alors, évidemment, on peut se poser aussi la question de l'emboîtement, une image dans l'autre. Et ça nous amène à quelque chose qui a l'air d'être assez évident quand on lit Dali et quand on voit ce qu'il a fait, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui contient autre chose, hein, et avec une énorme angoisse d'y rester enfermé. D'où ce qu'il est obligé de nous raconter, hein, parce que ça c'est dans ses écrits, de ce qu'il faut absolument faire écouler. Hein. Il faut que ça sorte, l'histoire des comédons qui doivent s'écouler. On a l'impression que c'est là l'impasse, c'est qu'on pourrait rester enfermé dedans. Hein. Et donc, il faut en sortir. Ce qui se retrouve au niveau de cette dialectique, dans une image et une autre image, et encore une autre image, et c'est indéfini, et on n'en sort jamais. Et peut-être ce qui l'arrête quand même, c'est de peindre l'image.
Dali a souvent parlé de la fascination qu'avait exercée sur lui lorsqu'il était enfant, des insectes qui ressemblaient aux brindilles de l'arbre sur lequel il vivait. Il serait pour lui une des sources des images doubles. Voici ce qu'en pense le docteur E, psychanalyste d'origine catalane.
Il aurait pu d'ailleurs étendre cette analogie au monde entier, car il n'y a pas une seule perception de quoi que ce soit qui ne se fasse percevoir en tant que figure et fond et en tant que réversibilité même du tout à la partie. C'est une des dimensions fondamentales de toute perception que de pouvoir s'inscrire effectivement dans ce double registre de sens et dans cette opposition qui renvoie toujours l'un à l'autre. C'est la généralité même de la psychologie, on peut dire de la métaphysique de la perception.
Donc, toute vue, tout regard, vous paraît
est fatalement une diplopie.
La diplopie suscite chez Dali une série d'enchaînements d'images qui sortent les unes des autres, à la façon des poupées gigognes.
Qu'est-ce que c'est que ce procédé-là ? Évidemment, on pourrait dire que tout est dans tout, hein, mais là, il n'est pas question de dire tout est dans tout, il est question de dire, il y a quelque chose qui fait glisser de l'un à l'autre. C'est évidemment mettre en jeu quelque chose qui est de l'ordre de la métonymie. Hein. Et Salvador Dali utilise ce procédé vraiment d'une façon très développée. Et il en a certainement beaucoup de plaisir. Et peut-être que nous aussi, ça nous fait plaisir de voir quelqu'un qui, comme ça, se permet de glisser d'un thème à l'autre, d'une idée à l'autre, avec un brio, une invention qui est vraiment séduisante. Mais on passe à côté de ce qui est l'essentiel, hein, qui est peut-être quelque chose que, justement, ce qui provoque dans l'image une émotion, c'est que quelque chose échappe. Alors, Dali, évidemment, on pourrait penser que ce qui échappe, c'est ce qu'il recherche toujours, hein, dans le développement infini d'un thème qui se multiplie, se revient sur lui, repart, s'enrichit, etc.
Est-ce que pour vous, cette démarche-là relève aussi de ce que vous cherchiez, c'est-à-dire le discrédit du monde de la réalité, enfin, du monde immédiatement photographique ?
Absolument. C'est ce qu'y a-t-il les gens.
C'est ça. Seulement, vous défendez les hyperréalistes et eux ne travaillent pas dans l'image double, en fait.
Mais ils peuvent travailler.
Ils peuvent. Mais eux...
Avec la technique est très adéquate pour l'image double. Maintenant, ils en sont uniquement à leur première phase. C'est pour ça que, de même que l'art expressionniste ou l'action painting est absolument impossible à faire des images doubles, avec la chose hyperréaliste, oui. On avait dit que la photographie allait remplacer la peinture. Et maintenant, c'est absolument le contraire. C'est grâce à la photographie que la peinture renaît. La photographie a été pratiquée depuis la Grèce, puisque les Grecs déjà moulaient, eux aussi, des fragments du corps humain. Dans cet après-midi, je vais commencer un cuivre dans lequel il y a une dizaine de nus, et tous copiés exactement d'un livre sur les sculptures grecques. que malheureusement c'est pas celui de Deschamps, mais que j'ai trouvé à Barcelone. Alors j'ai fait ce qu'ils ont fait à la Renaissance, plus ou moins Miguel Ange et Raphaël, prendre des archétypes de l'Antiquité et les faire en chair. C'est-à-dire ces choses qui sont en pierre, je les fais comme des êtres vivants.
Ce qui le sauve de l'enfermement, c'est le fait que le tiers qui intervient, c'est l'image qui peint. Dali, à coup sûr, provoque celui qui regarde ses tableaux à suivre un espèce de déroulement de son imaginaire à lui, hein, mais qui nous touche, hein, parce qu'il nous renvoie peut-être aux choses les plus essentielles qui sont qu'effectivement, nous sommes morcelés, nous sommes sujets à la destruction, nous sommes sujets à l'idéalisation. Et ça, il nous renvoie à ça. L'image reprise dans tout un système commercial, hein, et il est extrêmement sensible à tout ce qui peut se passer à ce niveau-là, hein, parce que la société joue la fonction de venir s'interposer, hein, par rapport même à lui et à son image.
C'est-à-dire que le fait que la société se saisisse de cette image...
Qu'il la vende. Parce que Dieu sait s'il ne sait pas rien. Okay. Hein.
Ça signifie qu'en réalité, il échappe à une espèce d'enfermement.
Je ne sais pas si ça signifie, mais il est évident que ça a une portée. Et pour tous les peintres, ça a toujours été comme ça, et on ne peut absolument pas éviter cette mise en circulation du tableau. Hein. Autrefois, elle était commandée, c'était la commande d'État, ou c'était la... Enfin, les peintres n'étaient que ceux, les courtisans, qui devaient apporter quelque chose à l'institution, disons. Hein. Maintenant, c'est pris dans un système, il y a un marché de la peinture, hein, et c'est pris dans un système social où la société réclame des tableaux, à la limite, hein, comme elle réclame de la culture.
Et alors, l'artiste vis-à-vis de ce courant d'échange, qu'est-ce que ça représente pour son moi, en fait? C'est ça la question, dans le cas de Dali particulièrement.
Il semble que Dali n'est pas désintéressé. Donc ça représente sûrement quelque chose, mais on ne peut pas en dire plus.
C'est ça, mais sur un plan symbolique.
Sur le plan symbolique, je ne sais pas s'il faut mettre un mot là-dessus, hein, pour l'instant. Mais il est évident que ça n'est pas indifférent à la production de l'artiste.
Et qu'est-ce que vous pensez de son attitude vis-à-vis de ce qu'il appelle les images fortuites? Vous connaissez cette image de la case africaine qui est finalement inversée, représentée pour Breton et lui-même, le visage du marquis de Sade, disent-ils. Bon. Vous savez qu'en outre, il est tout le temps obsédé par ça, c'est-à-dire par exemple, il est en train de lire un journal et d'un seul coup il s'arrête car il y voit le profil dans la disposition typographique de la Vénus de Milo, par exemple. Il est tout le temps comme ça.
Ouais. Il a un imaginaire extrêmement riche, tant mieux pour lui. Il en tire beaucoup de plaisir. C'est aussi de là qu'il espère tirer une satisfaction qui peut même aller jusqu'à ceux qui regarderont ses tableaux.
Toujours pour la même raison, c'est que la perception totalise ou oriente dans un même sens par une sorte de confrontation des deux dimensions qui composent la figure. De telle façon que la perception elle-même rassemble et peut ou bien dissocier ou au contraire confondre. Mais c'est toujours un acte qui ne se conçoit pas que comme une synthèse d'au moins deux dimensions.
Or c'est précisément sur cette synthèse que Dali joue, en offrant au moins deux possibilités différentes d'interprétation. Sa peinture devient subversive, elle suscite chez le regardeur le désir d'une autre rencontre.
Il y a quelque chose chez Dali qui me semble assez perceptible dans ce qu'il écrit, c'est l'idée de la rencontre. Hein. Il a toujours envie que quelque chose arrive du fait d'une rencontre insolite. Et il a lu Freud et Luna Imisch. Hein. Luna Imisch, c'est quoi? C'est quelque chose qui tout d'un coup est une rencontre insolite et surgit. Et Freud a pris comme exemple l'exemple du double. Il a dit le plus bel exemple d'Unheimlich qu'on peut trouver, c'est le double. Hein, tout d'un coup, un autre soi-même se présentifie et, étonnement, trouble, c'est soi-même, hein, qu'on voit. Et Freud donne comme exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il donne l'exemple de lui-même dans le wagon du train qui va je ne sais plus où, où la porte du wagon-lit se met à se balancer, et tout d'un coup surgit un homme qu'il ne reconnaît pas. Et c'était Freud, tout simplement, en costume de voyage. Il dit que c'est un des effets qui est le plus troublant, finalement. Alors je crois que chez Dali, il y a toujours cette volonté de susciter des rencontres qui seraient quelque chose qui nous donnerait à voir une image qui nous troublerait.
On a dit que le système de double lecture des images avait été surtout étayé par la rencontre de Dali en 1932 avec Jacques Lacan. En particulier, il y aurait trouvé sa démarche créatrice qu'il baptisa « méthode paranoïa critique ».
Je pense que cette doublure impliquée, ou cette duplicité, ou cette duplication impliquée dans tout symbole, dans tout le système des signes, n'est propre ni à la psychopathologie ou à la psychanalyse de Lacan, ni non plus au travail de construction symbolique de Dali. Tous les linguistes, tous les philosophes, tous les artistes, tous ceux qui parlent, tous ceux qui écrivent, savent bien que quand ils manient des symboles, ils manient des êtres qui sont à double face, à double signification, parce que c'est le sens le plus profond même du signe que d'être polysémantique, ou en tout cas de présenter toujours un envers et un endroit, ce qui est l'essence même de tout symbolisme. Ce qui fait que là non plus, je ne trouve pas qu'il y ait une spécificité particulière, soit à la conception de Lacan en matière de paranoïa, qui est au fond revient à celle que déjà Freud avait indiquée, et ni à Dali dans le maniement même de sa méthodologie et de sa technique propre à son art de peinture, son art de peintre que j'appellerais plutôt un art de poète, parce que je pense que c'est un plus grand poète qu'un plus grand peintre.
Vous savez que quand même, il s'agit pour lui d'une recherche systématique quand il a des bustes de Voltaire qui peuvent se lire doublement.
Oui, oui, c'est ça. Les figures ambiguës.
Voilà.
C'est le maniement de la figure ambiguë qu'on retrouve encore une fois dans tous les jeux, dans toute esthétique surréaliste en particulier. C'est pas par hasard, naturellement, qu'on est dans la lignée surréaliste et que le surréalisme s'est caractérisé en effet par la manipulation, la construction en partie double des figures ambiguës.
La figure ambiguë incite l'esprit à découvrir un sens différent de celui qui est apparent, à déchiffrer l'énigme, à ne pas rester neutre.
Même ce qui n'a pas l'air d'avoir de sens dans les médias est signifiant et se rattache à quelque chose.
Mais alors là, c'est évidemment une volonté de dominer le destin. Hein? De même que la création du double est une volonté de dominer, peut-être pas le destin, mais en tout cas la mort. Si on reprend l'analyse non plus de Freud à ce moment-là, mais de Rank, elle a été approfondie d'une autre façon que par Freud, qui est revenu en un second temps, puisque c'est Otto Rank qui est le premier à analyser cette notion de double. Hein. Rank, lui, situait les choses, le double, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est l'image dans le miroir, c'est tout ce qui est une protection. Ce serait des créations protégeant de l'idée que ce pauvre petit moi auquel nous tenons tant peut être détruit par la mort. Alors que Freud, lui, a situé beaucoup plus la notion de double comme protection contre la castration. Et le plus bel exemple qu'il en a donné, c'est son tout petit article qui s'appelle « La tête de Méduse », où il dit « La tête de Méduse, qu'est-ce que c'est ? C'est une face aux yeux vides, entourée d'une chevelure de serpent. » Et Freud, curieusement, dans ces deux pages extraordinaires d'ailleurs, situe ce redoublement d'un symbole phallique évident comme une façon de se protéger de l'idée que ça pourrait manquer.
Dali a d'ailleurs avoué sa peur de la castration dans des tableaux comme « Je lugubre » où l'on trouve un corps déchiré à partir du ventre. Mais la plupart du temps, il a préféré le transfert sur des images doubles ou triples et les jeux du trompe-l'œil.
Vous avez compliqué le jeu parce que vous avez aussi mystifié le regard avec vos trompe-l'œil, vos images doubles.
Pas autant que la Renaissance italienne, surtout les jésuites et El padre Pozo, que c'est le plus grand de tous, qui est devenu fou à cause de tant de mystifications, qui avait fait le San Ignacio à Rome, qui est le chef-d'œuvre de la fausse perspective. Et c'est impossible pour les gens savoir où ça commence un chapiteau et où ça continue celui qui est peint.
Oui.
Ça, et... le maximum, c'est dans le style jésuitique à Rome.
Mais pour vous, par exemple, dans vos images doubles, c'était l'expression de quoi profondément?
C'est... Ah, ça, c'est le manifeste de l'activité pranayacritique.
C'est ça.
C'est de faire voir aux gens ce qu'on veut.
Mais c'est donc pour vous quelque chose de dirigé, sciemment dirigé.
Ah, critique, c'est dirigé. Mm-hmm. Paranoïaque, c'est involontaire, puisqu'il y a des gens qui naissent avec les structures paranoïaques et d'autres pas. Mais quand on dit activité, déjà, c'est dirigé.
C'est cette activité paranoïa critique que nous aborderons dans la prochaine émission.
C'était La blessure infinie, le 6e des 10 épisodes de la série Clé pour un théâtre musée, proposée par Daniel Lecomte, avec Salvador Dali, Claude Tiss, psychanalyste, Liu Ba, peintre, Robert Descharnes, photographe, biographe et collaborateur de Salvador Dali. Réalisation Jacqueline Archambault, première diffusion sur France Culture, le 13 novembre 1978, dans Les Nuits Magnétiques. À suivre.